Conte vénitien adressé par Charles Edmond Hoyeski à Madame Nubar Pacha, Paris le 10 décembre 1874. Madame, combien je regrette de ne me pas trouver à Venise en même temps que vous. Je me serais permis de vous proposer une excursion dans une des parties perdues et mystérieuses de la reine de l'Adriatique. La course eût valu et au-delà 2 heures de gondole. Lors d'une de mes flâneries du côté de la lagune de Murano et au fond du petit canal Barbarigo, le hasard m'a fait découvrir un sombre palazzino à moitié détruit et d'un aspect étrange. Si érudits que soient les gondoliers de Venise, le mien ne sut m'offrir que des renseignements fort troubles sur la bizarre construction devant laquelle je n'avais pris de sérieux de s'arrêter un instant. « C'est la plus antique maison de la ville, m'a-t-il dit. Tout ce qu'on peut en affirmer, c'est qu'elle date au moins de la fondation de Venise et que depuis ce temps, n'a jamais cessé d'appartenir à des Arméniens. Aujourd'hui encore, elle est habitée par un vieillard de cette nation. « Peut-on y pénétrer ? » demandai-je. « Oh, pourquoi pas ? À Venise, on pénètre partout. » Ma curiosité fut vivement surexcitée. Un coup de rame me fit débarquer au seuil de la maison, je frappai à la porte et attendis. Personne. Mon gondolier, qui pour se mettre à l'ombre s'était abrité sous un balcon de la rive opposée, m'encouragea du reste à renouveler ma tentative. À la troisième fois, je finis par réussir. La porte s'ouvrit. À travers l'entrebâillement, j'aperçus une barbe blanche dont le terrain neigeux se bifurquait à la poitrine de son porteur pour expirer ensuite en 2 longues pointes. Au-dessus d'un nez à courbure de bec d'aigle, une paire d'yeux noirs, profonds, perdus sous des touffes de sourcils blancs, me fixait avec un éclat qui me forçait à baisser les miens. « Que venez-vous demander ? » fit le vieillard. « La faveur de visiter cette curieuse habitation, » répondis-je d'une voix que j'essayais de rendre aussi harmonieuse que celle de la flûte enchantée. Il réfléchit, me dévisagea quelques instants. Mon attitude d'humble suppliant lui plut sans doute, la porte s'ouvrit et je pénétrai. « Je ne reçois ni Vénitien ni étranger, personne, » poursuivit d'un air rogne le patriarche. « Heureusement pour vous, c'est aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance, le seul jour où depuis plusieurs siècles j'ai l'habitude de faire bon accueil aux fils des humains. Entrez, asseyez-vous » ajouta-t-il en poussant vers moi un escabeau d'ébène, finement incrusté d'ivoire. Je vous en supplie, je suis extrêmement reconnaissant, répondis-je avec un profond salut. Ah, vous êtes arménien ? Demanda mon hôte. Non, je n'ai pas cet honneur, mais grâce à l'étude obstinée de votre belle langue, je la parle avec une élégance et une distinction dont vous me donnerez des nouvelles. À ces mots, la glace soudain se rompit, et la conversation s'engagea entre nous sur une foule de sujets tels que l'histoire, la philosophie, la pisciculture et les commérages de l'école préhistorique. Les questions se succédaient rapidement aux réponses, les récits aux interruptions. Parfois, nous éprouvions quelque peine à nous comprendre. Lui parlait le pur dialecte arménien, celui de l'Arche de Noé. Moi, je m'exprimais en idiome de la tour de Babel, où toutes les langues ayant été représentées, l'arménienne aussi avait eu une large part. Seulement, sa parole à lui était brève, concise, tacitienne, tandis que j'ouvrais, moi, des écluses à un langage fleuri, poétique et maillé de temps à autre de quelques joyeux calembours. Je l'aurais volontiers comparé au Michel-Ange de la parole. J'en étais tout modestement le Raphaël. De longues heures s'écoulèrent à notre ravissement réciproque. Vint le moment de la séparation. Des deux côtés, elle fut également pénible. Je dus promettre de revenir le lendemain. La promesse ne me coûtait rien à donner, je me sentais même trop heureux de pouvoir la tenir. Je revins en effet et je le fis quotidiennement pendant tout mon séjour à Venise. Le vieillard finit par prendre en moi une telle confiance qu'après m'avoir prodigué les trésors de son esprit, il se décida à m'ouvrir ceux de ses collections. Car c'était un collectionneur. Les merveilles entassées dans une série de caves voûtées de sa maison dépassaient tout inventaire. Un fouillis d'objets précieux de toutes sortes et dont l'origine pour la plupart se perdait dans la nuit des temps. Il y avait là de quoi défrayer pendant des mois, des années peut-être, les ventes publiques de Paris et de Londres. Je fus ébloui. Mon hôte jouissait malicieusement de ma stupéfaction. Il était convaincu que mon ignorance, en fait, de l'origine, de la nature, de la valeur des objets qui composaient son trésor, était pour beaucoup dans mes ébahissements. Il revêtit un air de protection magistrale, m'engagea à ne pas me troubler et promit d'éclairer de ses lumières les épaisses ténèbres de mon crétinisme. À mon tour, je lui ménageai une forte surprise. Antiquaire, antiquaire et demi. Le vieux savant laissa heurter en ma personne un archéologue de la force de seconde de 100 gondoliers. Nous nous précipitâmes à la besogne. Mais à peine avait-il pris le temps de me présenter un objet que déjà, avec une volubilité vertigineuse, j'en avais indiqué la date, la provenance, le nom et l'âge du fabricant, ceux du premier propriétaire et de son épouse, descendant ainsi jusqu'au plus menu détail. De loin et à première vue, je déchiffrais les palimpsestes, je scandais d'une voix tonitruante les incunables, je lisais à rouleau ouvert les papyrus, je dévoilais avec une grâce exquise les mystères des hiéroglyphes. Mon hôte restait pétrifié. La douche des notions scientifiques que je laissais pleuvoir sur son crâne semblait avoir paralysé toutes ses facultés. L'étonnement et bien plus encore l'humiliation de s'être frotté à quelqu'un de cette force torturait visiblement son âme. Par un effort surhumain, il réussit à dompter son émotion et, faisant appel à toute son énergie, il résolut d'engager une lutte à outrance et dans des conditions féroces. « Jusqu'ici, dit-il, nous nous sommes amusés à des bagatelles. Le premier collégien venu en fait tout autant, voire même davantage, mais du moment que vous nous donnez des airs d'un joueur d'élite, nous allons passer à un jeu plus sérieux. Je crains toutefois que du premier coup, je vous pousse une abominable colle. » L'élégance raffinée de cette dernière expression m'intimida, je l'avoue. Pour toute réponse, je retroussai les crocs de mes moustaches et, soulevant de mon parapluie comme d'une rapière la basque de ma redingote, je m'écriai « Mais c'est ce que nous verrons, vieillard ténébreux et grognon. « Suivez-moi alors, répondit l'antiquaire. Je le suivis. Nous nous enfonçâmes dans un couloir obscur. Une porte de fer arrêta nos pas. J'entendis un infernal grincement de clés dans la serrure. Le battant roula sur ses gonds, et nous nous insinuâmes dans une pièce voûtée et éclairée par des lentilles de verre, comme on en voit dans les bains d'Orient. L'éclat des richesses accumulées dans ce réduit me força à fermer les paupières. J'en profitai pour armer mon nez d'une paire de lunettes bleues que j'ai toujours l'habitude de porter sur moi dans les pays à soleil. Muni de cet engin, je me sentis en pleine possession de mes facultés. De hautes vitrines en ébène serrées l'une contre l'autre laissaient voir à travers des carreaux en cristal de roche des merveilles sans nombre, somptueuses et vénérables vestiges des civilisations éteintes. Mon compagnon triomphait de mon extase. À mon tour maintenant, fit-il en brandissant une baguette d'ivoire. Vous voici, si je m'abuse, en pays tout à fait inconnu, je parie ma barbe, plusieurs fois séculaire, que vous vous arrêterez court devant le premier objet venu de cette collection. Celui-ci, donnez par exemple. Commençons par ce que je possède le plus précieux. Je suivis du regard la baguette qui se fixa sur un point de la vitrine. Effleurant alors d'un coup d'œil d'aigle l'objet indiqué, je ripostai sans hésiter. Oh, cela, ce sont les bretelles du patriarche Noé, brodées par Sabru, l'épouse de son troisième fils, Japheth. Le vieillard demeurait interdit. Dès le début du jeu, j'avais amené le mille. Ma définition était irréprochable. Et ceci, continua-t-il en élevant sa baguette vers un rayon supérieur. Le revolver de Wati Grand 5, célèbre par ses guerres contre les Parthes. Un tremblement nerveux commençait à agiter les membres de l'antiquaire. Pas sur cette autre relique, balbutia-t-il. La reconnaissez-vous? Oh, parfaitement, un faux col du chroniqueur Moïse de Corène. All right, what an extraordinary fellow! Son émotion se faisait tout à coup parler anglais. Sur ce, il tira d'un album une photographie. Elle est faite par nature, sur la. Pourriez-vous me nommer la personne qui a posé pour cette image? Ah oui, Mithridate, roi de Pont. L'antiquaire fit un bond de jaguar et frappa de ses deux poings sur la porte de fer. Celle-ci résonna comme un immense gong. Roi de Pont, hurla-t-il, quel pont? Le pont des soupirs ou bien le pont neuf, avec Henri IV dessus? Évidemment, il commençait à battre la campagne. Je gardais un calme marmoréen. Le pont, répondis-je, d'une haleine, vaste pays, capitale Sinope, bordée par la petite Arménie, la Colchide, la Cappadoce, la Galatie, l'Abitibi et la ville libre d'Héraclée Ponique. Le vieillard s'affaissait sous l'ouragan de ses notions géographiques. Mais de plus en plus fort, comme chez Nicolet, murmurait-il d'une voix entrecoupée de sanglots. Mais serais-je vaincu? Aurais-je enfin trouvé mon maître? Oh, pas encore, oh non, pas encore. Et son œil hagard plongeait dans le vide, ses jambes flageolaient, ses bras cherchaient un appui. Je m'approchai pour le soutenir. D'un geste, il me cloua sur place. Laissez-moi, dit-il, jeune savant étranger. Allez, partez, esbignez-vous dardard. J'ai besoin d'être seul. Votre science sans pareille m'a aplati, épaté, écrabouillé pour me servir du langage de l'Académie française. Quelques heures de repos me sont indispensables. Mais revenez demain. J'aurai à vous infiltrer une communication grave. Ma destinée et la vôtre, sans doute, en dépendent. Maintenant, allez, filez. Je ne me suis pas fait répéter. Peu après, mon gondolier me ramenait à l'hôtel d'Agnelli, où, entre parenthèses, m'attendait une détestable chambre au troisième étage, dénuée de moustiques et une table d'hôte du plus mauvais aloi. J'ai appris depuis que pour être bien traité à cette affreuse auberge, il fallait être une grande dame du Caire. Or, à mon vif regret, je n'étais, ainsi qu'il vient d'être démontré, que le premier archéologue de Bellevue. Le lendemain, je fus exact au rendez-vous. La porte d'entrée était à moitié ouverte, le vieillard m'attendait. L'éclat habituel de son regard était singulièrement amorti. Une douce mélancolie envahissait ses traits. Il me fit signe de prendre place à ses côtés. Je m'assis. Tous deux, nous étions troublés. Personne n'osait le premier rompre le silence. Je sentais qu'il devait m'arriver quelque chose d'énorme. Nous fûmes assez longtemps à nous contempler dans le blanc des yeux, en hochant la tête, avec la régularité d'un balancier de pendule. L'utilité de ce dodelinement réciproque ne me paraissant pas suffisamment justifiée, j'ouvris la bouche pour entamer l'entretien. Mon hôte me saisit le bras, et avant que j'eusse eu le temps d'articuler des sons, il s'exprima ainsi. Je ne peux être archéologue de Bellevue. La Terre a peut-être des limites, le reste de l'univers en a à coup sûr, mais votre science n'en connaît point. À vous seul, vous donnez le pion à tous les savants du monde. Le passé et le présent n'ont pas de mystère pour vous, enfin, telle est du moins ma conviction. Et la mienne aussi, répondis-je, avec un adorable sourire de modestie. Pourtant, continua-t-il, je ne suis pas encore certain que vous soyez capable de résoudre tous les problèmes sans exception, ainsi que vous avez résolu ceux que je vous ai présentés jusqu'ici. Et d'où vous vient ce doute, vieillard soupçonneux, quoique Kakoshim? Patienza, vous allez subir la dernière épreuve, oh, sera décisive. Écoutez-moi bien. Il se joue entre nous une partie suprême. Si vous parvenez à déchiffrer l'énigme que je compte vous proposer, je vous institue légataire universel de tous mes trésors. Au cas contraire, je me paierai le plaisir de vous faire expirer dans des tortures raffinées et qui jusqu'ici n'ont pas encore été étrennées par personne. Je fis un soubresaut. Oh, ne croyez pas, poursuivit-il, d'être pris à bout de pourpoint. Non, non, je vous accorde une année de méditation. Dans un an, le même jour, à la même heure, vous vous présenterez à mon domicile. Supplice ou héritage, telle sera la récompense de votre prochaine visite. Acceptez-vous? Ah, permettez, permettez. Ah, vous cannez, mon caillard. Moi, non. Eh bien non, j'accepte. Stoppez là. C'est entendu, alors examinez maintenant l'objet que voici. Il me tendit une boîte assez ordinaire, un petit coffret fort simple, insignifiant comme on en faisait beaucoup jadis et comme on en fabrique encore aujourd'hui. J'allais prendre la parole pour lui débiter la provenance, la destination et la chronique de la boîte. Il m'imposa silence. Un instant, dit-il. L'énigme ne consiste pas dans le coffret, mais dans l'histoire qui s'y rattache. C'est moi qui vais vous la raconter. Oh, elle est fort ancienne. Une longue série de mes aïeux ont passé leur vie à chercher le dernier mot. Moi-même, j'ai inutilement usé mon existence à le découvrir. À votre tour maintenant, puisque vous ne reculez devant aucune difficulté. Mais bien sûr, ne perdez pas de vue les conditions stipulées entre nous. Quant à moi, de crainte que ma mémoire ne me fasse défaut, je suivrai de près le manuscrit qui consigne les faits. Il mit ses lunettes et déploya un véritable parchemin. Je jetai par-dessus son épaule un coup d'œil sur le manuscrit et distinguai le titre suivant, griffonné en caractères archaïques arméniens, L'histoire de la princesse. Le morceau, dis-je, me semble un peu longuet, et je crains qu'il ne soit dur à avaler. Ben, cela ne tienne, répondit le vieux collectionneur. Je consens à pas abuser de vos moments. Au lieu de vous donner intégralement la lecture du grimoire, vous allez apprendre en deux mots de quoi il retourne. Je lui adressai une risette de satisfaction, mon hôte continua en ces termes. Il y a de cela un temps immémorial que près d'Erivan, à l'endroit même où le voyageur aperçoit aujourd'hui à peine les ruines du célèbre couvent d'Ertsmiadzin, s'élevait un superbe palais habité par le prince Kegian, fils d'Amasia, petit-fils de Sfarvash II, arrière-petit-fils de. Oh, connu, m'écriai-je. Ah, c'est comme ça de généalogie, arrivons au fait. Mais nous y sommes en plein. Donc le prince, grand seigneur accompli, était doué d'une spécialité fort rare. Il adorait passionnément la princesse, son épouse. Elle le méritait d'ailleurs à tous égards. Tandis que les autres princes de la grande et de la petite Arménie cherchaient leur plaisir dans la guerre, la chasse ou la domination sur les sujets et sujettes, le prince Kegan se croyait heureux que lorsqu'il réussissait, pour une aimable attention, une heureuse pensée, une tendre surprise, d'amener le sourire sur la bouche de la princesse. Il le pensait, il rêvait qu'à cela. Et un jour, que son imagination se trouvait à bout, et qu'il voyait la princesse un peu mélancolique, il lui proposa, pour la distraire, de formuler elle-même un vœu, un désir, une fantaisie, au besoin. Fût-ce une étoile du ciel, l'amour du prince était si profond que le souhait de la princesse n'en serait que plus promptement réalisé. La princesse sourit, ce qui était déjà bon signe, et demanda à réfléchir. Une idée malicieuse venait de poindre dans son esprit. Mais les femmes, quand elles sont parfaites, en ont souvent. La princesse se promit de mettre son époux dans l'embarras. Le soir même, elle fit venir en cachette un vieil ermite qui passait dans le pays pour être un peu sorcier. Elle lui demanda conseil. Celui-ci, comblé de tout temps des bienfaits de la princesse, n'avait rien à lui refuser. Il s'engagea à remplir le lendemain matin ses ordres. En effet, il se présenta dès l'aurore. Il tenait soigneusement enveloppé une petite boîte assez ordinaire, la même que vous là, vous voyez, et l'offrit à la princesse en disant « Au premier aspect, le coffret que voici semble être indigne de votre sublime grâce, mais les apparences sont souvent trompeuses. Le magicien qui l'a fabriqué lui a communiqué une puissance mystérieuse et étrange. Demandez au prince de le remplir d'objets les plus rares, des joyaux les plus précieux. Et la boîte, une fois remplie, aura l'air de contenir des richesses, mais à la condition que le couvercle soit levé, et aussi longtemps qu'il le sera. Et du moment que vous l'aurez fermé, quelle que soit la valeur du bijou, elle n'atteindra jamais celle de la boîte vide, telle que je vous la présente. Et essayez pour voir. Le prince sera le premier à reconnaître la vertu magique du coffret. » La princesse se laissa persuader. Le jour même, elle montra la boîte ouverte à son époux, et se plaignit qu'il n'y avait rien dedans. Le prince, ravi de l'occasion, jura qu'avant la fin de la journée, il y déposerait un trésor. Il avait heureusement appris dans la matinée que des marchands hindous venaient de débarquer apportant les plus belles perles qu'on eût jamais prochées à Ceylan. Il en parla sur le champ à la princesse. Celle-ci répondit que les perles, fussent-elles grosses comme des oranges, n'auraient jamais à ses yeux, ni même à ceux du prince, la valeur de la misérable boîte. Le prince ne comprit rien à la plaisanterie. Il s'éclipsa et revint bientôt chargé de plusieurs poignées de perles, oh, d'une dimension et d'un éclat merveilleux. Il les laissa couler dans la boîte. La princesse fit tomber le couvercle. « Eh bien, lui dit-elle, croyez-vous encore que je puisse mieux aimer le dedans que le dehors du coffret ?» Le prince jeta un coup d'œil sur le couvercle et s'inclina en silence. Il n'y avait rien à objecter. La princesse était dans le vrai. Les perles furent mises à l'écart. Le prince, de son côté, désireux de garnir magnifiquement le coffret, expédia des courtiers habiles à la recherche de rubis en ophir, de diamants en Himalaya, de turquoise en Sibérie, d'émeraudes à Samarcande, des saphirs à Bactriane. Ils revinrent courbés sous le poids des pierreries, mais aussitôt qu'on avait rempli la boîte et que le couvercle fut fermé, le prince, aussi bien que la princesse, avouait qu'ils éprouvaient plus de plaisir à contempler l'extérieur que le contenu du bizarre coffret. Ils vécurent ainsi de très longues années, et le prince n'a réussi à prouver qu'une chose, savoir qu'il était le modèle des maris, modèle comme depuis ne s'en est produit de pareil qu'une seule fois, à de longs siècles d'intervalle, non plus à Aix-en-Bazine, mais dans une ville située au bord du Nil. L'histoire est terminée, ajouta le vieil antiquaire. Il s'agit maintenant de découvrir en quoi consistait le secret de la mystérieuse boîte. Des générations entières de savants, de philosophes et de sorciers ont perdu leur science. Apparemment, c'était des imbéciles. Moi-même, j'ai usé ma vie à méditer sur l'énigme, en vain. À vous de la débrouiller. Voici le coffret, emportez-le. Et l'année prochaine, le 5 septembre, à 10h15 du matin, je vous attends ici, de pied ferme. N'oubliez pas, l'actrice finale de notre traité, il est irrévocable. Adieu, jeune archéologue, adieu. Au revoir, vieillard insidieux, répondis-je, et à l'année prochaine. J'ai emporté la boîte, madame, et je la garde constamment devant les yeux. Je médite sur elle, je me perds en conjectures. Mes efforts n'aboutissent point. L'année prochaine, fidèle à ma parole, je me présenterai chez le vieux collectionneur et je pressens qu'il me faudra expirer dans les supplices. Cette perspective trouble parfois ma future veuve. J'ai pensé, madame, que, connaissant à fort les légendes de votre pays, vous ne me refuseriez peut-être pas de me venir en aide. En dehors de votre gracieuse intervention, je ne vois point de salut. Aussi, je prends la liberté de vous envoyer la petite boîte et vous conjure de vouloir bien arrêter un instant sur elle vos regards. Le premier, à coup sûr, me vaudra ma délivrance. Il me reste à vous demander pardon de ma trop longue missive. Je n'ai eu qu'une seule raison de la risquer, et cette raison est fort simple. Si j'étais boulanger, je déposerais à vos pieds un pain de ma boulangerie. Écrivailleur romantique par état, je me suis permis d'imaginer à votre attention le présent conte. La boîte le suivra de près. En attendant, veuillez, madame, comme on dit dans les anciens fabliaux, excusez les fautes de l'auteur et agréez l'expression de mon profond respectueux et inaltérable dévouement. Charles Edmond Robilevski.